Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Elle est devenue ces 10 dernières années leader mondial de technologie médicale. C'est l'entreprise Philips dont la recherche révolutionne l'approche de nombreuses pathologies. Virginie Gervaise, sa nouvelle présidente France, est avec nous dans Check-up Santé. Il sort de son congrès annuel qu'il a organisé ces derniers jours à Arcachon. C'est Franck de Vulder, le président du premier syndicat de médecins de France, la CSMF, Confédération des syndicats médicaux de France. Il va nous dire pourquoi le médecin français a raison d'être pour le moins déprimé. Enfin, notre troisième invité, médecin du sport et maître de conférences à la faculté de médecine de Montpellier, vient à peine de sortir un guide sport santé qui va cartonner, j'en suis sûr. Check-up santé, c'est parti. Virginie Gervaise, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez fait une école d'ingénieur, vous avez fait HEC, hautes études communales, et vous avez travaillé pendant 14 ans chez GE Healthcare, donc le monde de la santé, vous le connaissez par cœur, et vous êtes la jeune présidente de Philips. Alors, même si la plupart le savent, c'est quand même bien de le dire, Philips, c'est plus du tout les ampoules ni les télévisions.
Tout à fait. Aujourd'hui, Philips a opéré un virage complet sur le monde médical et développe uniquement des solutions dans le business de la santé.
Alors vous restez quand même une entreprise néerlandaise ?
Oui, exactement. Une vraie entreprise néerlandaise avec une implantation internationale au sens large. Et d'ailleurs, dans cette mouvance vers le virage de la santé, aujourd'hui, on a ouvert, et je suis très heureuse de pouvoir l'annoncer aujourd'hui, un nouveau centre de l'innovation à Paris, où en fait, on a des équipes de R&D franco-françaises.
On va en reparler. D'accord. On va en reparler. Donc, Philips, donc, c'est la santé, le bien-être, c'est donc du dispositif médical.
Tout à fait.
Et le dispositif médical, ça va de l'imagerie, ça va.
Aujourd'hui, en fait, Philips est capable de répondre à l'ensemble des demandes et ça va de l'appareil de défibrillation en passant par l'IRM, en passant par les appareils de monitorage qu'on trouve dans les salles de réanimation. C'est la cardiologie interventionnelle, ça couvre un spectre très important.
Pathologie, oui. Et vous êtes présent dans pas mal d'établissements hospitaliers, publics, privés, j'imagine.
Oui, tout à fait. On a des gros partenariats avec la plupart des centres hospitaliers universitaires, également des cliniques, des centres de radiologie privés et publics.
Oui, il y a aussi évidemment le libéral, hein, même
tout
vous équipez même pas seulement des cabinets radio, des cabinets
fait.
De cardiologie aussi.
Tout à fait. On est vraiment acteurs dans la cardiologie, dans la radiologie et avec en pointillé vraiment toutes les solutions qu'on est capable d'apporter en termes de gestion des données, gestion de la data qui va permettre in fine de mieux traiter les patients. Mais je pense qu'on en reparlera après.
Bien sûr. Alors justement, cette intelligence artificielle, elle pénètre tous les domaines et particulièrement le domaine de la santé, le domaine des dispositifs médicaux et évidemment de vos produits. Et c'est pour cette raison un petit peu que vous avez ouvert ce centre.
Tout à fait.
En fait, centre d'innovation dédié donc à la santé à Paris.
Exactement. Aujourd'hui, Philips, dans ce virage santé, Philips a décidé de réorganiser sa R&D afin d'être plus performant, plus proche de nos clients pour développer les bons produits in fine pour mieux traiter les patients.
Avec des investissements très lourds.
On parle de quasiment 2 milliards d'investissements tous les ans. Et là, notre nouveau CEO Roy Jacob, qui a été nommé en début d'année en même temps que moi quasiment, a annoncé plus d'un milliard qui sera dédié à l'intelligence artificielle. Et dans cette mouvance-là, en fait, on vient d'ouvrir un centre qui s'appelle le HIP, le Health Innovation Paris, qui est au numéro 100 de la rue Réaumur. On est en plein
Silicon Sentier, comme on dit dans le jargon.
Pourquoi cette adresse? Tout simplement parce que c'est là où on trouve les jeunes pousses parisiennes. C'est là où on peut recruter les meilleurs talents parce que nos ingénieurs sont formés dans des écoles brillantes. Et c'est aussi là que se trouve le microcosme de start-up, mais aussi de partenariats possibles avec les établissements publics et privés.
Pourtant, c'est pas facile d'être de s'installer en plein centre de Paris d'un point de vue immobilier, non?
C'est stratégique. Mmh. Demain, on a besoin de recruter des pépites et les pépites, on les attire pas.
Et j'imagine que vous avez un monde fou dans ce centre, non ?
On a aujourd'hui 300 ingénieurs.
Oui, quand même.
C'est que le début de l'histoire. C'est que le début de l'histoire pour Philips en France.
Et les équipes viennent de start-up que vous avez pu.
Alors, c'est l'agrégation de plusieurs choses. C'est certaines start-up dont on a fait l'acquisition il y a quelques années, des jeunes pousses françaises, notamment Cardiologues et Capsules, qu'on a eu l'honneur d'acheter, puisque clairement, c'est aujourd'hui, ça nous permet de nous positionner sur des sujets d'interopérabilité, d'intelligence artificielle et de cybersécurité comme un leader et un pionnier aujourd'hui sur le business de la santé.
Alors quand on se balade un petit peu dans votre centre, on voit un espèce de mur d'écran, c'est ce fameux mur de l'innovation.
Tout à fait. En fait, ce mur d'écran...
Mur de neurones.
C'est le mur, ce qu'on appelle le mur de neurones. En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable d'agréger les données d'un patient quand il rentre à l'hôpital, d'agréger ces données au même endroit, en temps réel, en même temps, pour s'assurer de sa bonne prise en charge et du bon suivi. Et en fait, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Et grâce à ces solutions, on est capable d'avancer dans cette direction. Oui.
Donc, en plus du matériel que vous proposez aux établissements hospitaliers, vous proposez aussi des services autour de ça.
On propose des services. En fait, Philips aujourd'hui est une entreprise leader en santé. Et surtout, veut se positionner comme un leader en santé en numérique. Et cette ouverture de ce hub de l'innovation à Paris est vraiment une chance extraordinaire pour Philips, parce que c'est aligné avec le plan du gouvernement 2030 qui flèche vraiment l'innovation dans le numérique. Et en fait, aujourd'hui, Philips veut se positionner comme un partenaire qui va au-delà d'être un fournisseur de solutions, d'être au-delà d'un fournisseur de « tiens, un service de radiologie a besoin d'une nouvelle IRM, on installe une nouvelle IRM ». Non, on veut se positionner comme un acteur différenciant. Parce que pour moi, ce que je souhaite incarner avec Philips, c'est comment la technologie contribue à l'amélioration du système dans sa globalité. Parce que la technologie, c'est pas simplement, de faire une image qui permet d'apposer un diagnostic. La technologie, ça permet d'aller au-delà. Par exemple, aujourd'hui, la technologie, si on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est embarquée dans tous les équipements qu'on vend. L'intelligence artificielle permet de réduire considérablement, par exemple, la durée des examens. Quand il y a encore 5-6 ans, parce qu'on est dans plein octobre rose. Donc quand on parle de, je pense au cancer du sein, quand il y a 5-6 ans, on mettait entre 20 et 25 minutes pour arriver à faire une IRM du sein, par exemple.
Donc du coup, une irradiation moindre.
Alors, il n'y a pas de...
Quand ça dure moins longtemps, ouais.
Exactement. Aujourd'hui, on est capable de faire une IRM en moins de 10 minutes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que concrètement, en fait, dans un centre où on est capable de prendre 3 patientes aujourd'hui, avant, il n'y en avait qu'une, donc on a augmenté considérablement le délai d'attente et donc, in fine, la prise en charge de la patiente pour définir après le bon traitement et contribuer
justement,
positivement
donc,
à la prise en charge.
Cette intelligence artificielle, donc, elle va permettre, évidemment... On l'a dit, ne jamais remplacer évidemment le médecin qui va toujours garder la main et qui va l'aider dans le diagnostic, dans l'aspect prédictif.
Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais le médecin. L'intelligence artificielle est là en soutien. Mmh. Et là pour accélérer la prise en charge des patients parce qu'on est capable d'aller plus vite, de voir mieux, de prédire en avance de phase. Et pour vous donner un autre exemple, puisque c'est aujourd'hui, en fait, les JFR, les Journées Françaises de Radiologie, se tiennent actuellement porte-maillot. Et c'est la grosse thématique des JFR ce week-end, c'est le diagnostic intégré. Qu'est-ce que c'est le diagnostic intégré ? On est pionnier sur le sujet. C'est être capable de mettre à disposition une plateforme pluridisciplinaire où tous les corps de médecins sont capables de décider ensemble à un moment donné du traitement qui va être administré à un patient dont on a une suspicion de cancéreuse et de cancer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme ? On a le radiologue qui va pouvoir voir les images de son IRM, par exemple, ou de sa mammographie, l'anapathologiste qui est capable de voir enfin l'anapath qui est numérisée aujourd'hui, et en fait, ceci sur une même plateforme.
L'union fait la force
et permet d'accélérer la prise en charge des patients, in fine, nous.
En quelques secondes, comment vous voyez le futur de l'imagerie et des dispositifs médicaux ?
Aujourd'hui, en fait, si je devais résumer l'impact que l'imagerie va avoir et les dispositifs médicaux, je le résumerai de la façon suivante. La technologie va permettre, va changer la façon dont on prend en charge les patients. La technologie va permettre de mieux comprendre en avance, en fait, de façon d'être plus prédictif et donc de soigner la population même en avance, avant même qu'elle soit potentiellement malade. Parce qu'on sera capable de voir des choses qu'on n'était pas capable de voir encore il y a quelques années auparavant.
Merci beaucoup Virginie Gervais.
Merci pour
beaucoup.
Cette invitation.
Merci, c'est nous qui vous remercions. On va à présent accueillir Franck De Vulder, qui est le président de la CSMF, Confédération des syndicats médicaux de France.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Franck De Vulder, bonjour.
Bonjour Fabien Gaze.
Vous êtes un habitué de Check-up Santé.
Merci beaucoup, merci pour votre invitation.
Bah, on est ravis de vous revoir à chaque fois. Vous êtes gastro-entérologue à Reims et vous êtes le président de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français. C'est le premier syndicat de France, les médecins.
C'est le plus vieux. Oserais-je dire un des plus dynamiques et celui effectivement le premier en associant médecins généralistes et d'autres spécialités médicales et chirurgicales.
Ouais, parce que vraiment vous avez besoin d'être dynamique là en ce moment.
Hein. Ah, on a besoin d'être dynamique. Oui.
Alors vous venez justement d'organiser donc il y a quelques jours vos universités à Arcachon, l'université de la CSMF, avec du bon monde quand même, le ministre de la Santé, le patron de l'assurance maladie.
Avec du monde déjà, parce qu'on était monde, bien sûr. Quasiment 300 participants, mais effectivement, on a eu l'honneur d'accueillir le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, mais Thomas Fatome, le directeur général de l'assurance maladie, mais aussi beaucoup de monde sur une thématique qui est la thématique actuelle des difficultés d'accès aux soins des Français, et puis une thématique particulière qui est celle de la financiarisation de notre système de santé.
On va en reparler. Donc, justement, Aurélien Rousseau était là, le patron de l'assurance maladie était là, ils ont dû mettre un gilet pare-balles ou pas?
Ils n'ont pas mis un gilet pare-balles, mais je leur ai tenu, au nom de la CSMF, un discours transparent et de franchise.
Vous êtes surtout adressé aux Français, d'ailleurs.
Oui, moi, ce que je souhaite, c'est m'adresser aux Français. Pourquoi ? Parce que, et les Français le savent, et le savent très très bien, ils ont du mal aujourd'hui, et deux ans plus de mal à se faire soigner. J'accuse pas le ministre de la Santé, ce serait bien malvenu, il est là depuis deux mois.
Ils disent tous les jours.
Simplement, en deux chiffres, la population française, sur ces 20 dernières années, a augmenté de 12%, le nombre de nos médecins a baissé de 12%. Et maintenant, comment on fait? Et donc, moi, je m'adresse aux Français en disant il faut réécrire notre pacte social afin de protéger les plus fragiles de notre société. Et il y en a, et on le sait bien comme médecins, vous et moi, mais également en mettant le mot « attractivité » au cœur de nos décisions. On manque de médecins. Les médecins ne s'installent plus, de moins en moins. Or, la médecine de ville, c'est la porte d'entrée de notre système de santé, et on le sait tous.
Et en ce moment, le moral des médecins français, il est quel niveau?
Le moral des médecins français, il est
installé.
Oui, mais je pense que le moral des médecins à l'hôpital, il va pas beaucoup mieux. Mais mais en ce qui concerne la CSMF, on s'intéresse aux médecins libéraux.
Bien sûr.
Le moral des médecins va pas très bien. Il y a eu deux enquêtes récentes qui ont été faites chez les généralistes et chez les spécialistes. Un médecin en France, ça travaille 55 heures par semaine, ce qui est beaucoup plus que le temps de travail des patrons des grandes entreprises, parce que c'est comme ça que l'État nous l'a présenté. On continue à l'honorer.
Le médecin n'est pas salarié hein, quand il ne travaille pas.
Eh bien non, et quand il ne travaille pas,
il n'y a pas d'argent.
On continue à l'honorer avec des émoluments qui frisent le ridicule. Quand on donne 25 euros à la consultation et bientôt 26,50 €, ce qui fait rire tout le monde, à compenser tout à l'heure par mon chauffeur de taxi. De non, mettons le mot attractivité au cœur de nos décisions. Il en va de l'accès aux soins des Français. Si on ne le fait pas, ils nous le reprocheront. Nous médecins, mais ils vont le reprocher à l'État, ils vont le reprocher au ministre, ils vont le reprocher au président de la République s'ils ne peuvent pas se faire soigner. Mais
comment justement le rendre attractif alors? J'imagine que vous avez des propositions.
Oui, bien sûr. Il faut le rendre attractif en valorisant l'exercice du métier de médecin. D'abord, avoir un tarif de consultation qui soit digne, mais également avoir une hiérarchisation des tarifs différenciés. On sait tous, vous, moi et l'ensemble de nos confrères, que recevoir un nourrisson, recevoir une personne âgée polypathologique qui a plusieurs affections de longue durée, c'est long. Eh bien, donnons ce temps-là à nos médecins. À défaut, on les verra quitter le monde de la médecine libérale.
Et donc, du coup, vous pensez que la liberté d'exercice médical est menacée?
Alors, je sais que nombre de députés y pensent, nombre de nos élus y pensent. Il ne s'agit pas pour moi d'aller critiquer leur action. Mais je pense que c'est une méconnaissance de notre système de santé, c'est une méconnaissance de la situation démographique des médecins aujourd'hui. Penser qu'on va réguler la liberté d'installation des médecins alors qu'on manque de médecins partout, dans tout département, dans tout territoire, dans le public et dans le privé, d'un chiffre. La ministre déléguée chargée de l'offre de soins, Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ces dernières déclarations...
La DGOS.
87% des territoires du territoire national, 87% est en zone sous-dense de médecins. Et on sera à 100%
Paris,
dans deux ans.
Dont Paris, pour les médecins généralistes.
Dont Paris. Paris, c'est un des premiers déserts médicaux. Donc pensez qu'on va prendre un médecin de Paris pour l'envoyer en province et l'inverse, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul et on n'y arrivera pas.
On parle beaucoup de financiarisation de la médecine. Expliquez-nous ce que c'est que la financiarisation de la médecine.
Alors, je ferai un distinguo entre la financiarisation qui est presque et le financement. Financiarisation qui est presque le terme un peu qu'on n'aime pas voir. On sait.
Oui, c'est le côté péjoratif là.
C'est le côté péjoratif. On sait que la biologie médicale appartient pour 80% de l'offre à 5 grands groupes nationaux, dont les financiers sont des fonds de pension, sont des fonds d'investissement très souvent extra-hexagonaux. C'est pareil pour les établissements de santé privés. 77% de l'offre de soins dans les établissements de santé sont faites dans des établissements de santé qui appartiennent à des fonds de pension et des fonds d'investissement. Et donc, ils ont à cœur d'améliorer leur business, appelons un chat, d'améliorer finalement leurs finances.
Mais est-ce que ça peut faire tache d'huile sur la profession médicale?
Et oui, il y a une OPA très forte qui est menée aujourd'hui sur la radiologie française, mais aussi sur l'anatomopathologie, alors que les cotisations sociales des Français, nos impôts, nos prélèvements sociaux divers et variés, sont pas là pour enrichir finalement la retraite de la Californienne qui a placé son argent dans un fonds de pension d'investissement. C'est très choquant et il en va de notre indépendance nationale.
Alors justement, pour essayer, pour l'instant, hein, parce qu'on sait que la pénurie va durer hein, quelques années, et pour essayer de compenser tout ça, est-ce qu'on pourrait déjà peut-être diminuer le nombre d'études qui sont beaucoup trop longues?
Il y a plusieurs choses. D'abord, oui, ouais. Alors qu'on les a augmentées récemment, et que quand on se compare et qu'on regarde ce qui se passe chez nos voisins européens, on était déjà dans le peloton de tête, mais alors là, on est encore plus dans le peloton de tête, on est quasiment leader sur la durée des études médicales.
Et le partage des tâches avec des paramédicaux?
Et le partage des tâches, je vais même aller...
Il y a eu quand même quelques combats, quand même.
Oui, mais il faut aller au-delà. Je pense que la pierre angulaire, c'est la convention médicale et qui donnera aux médecins la juste, je ne demande pas l'aumône, la juste rémunération de l'activité qu'il réalise. À partir de ce moment-là, le partage des tâches deviendra tellement plus naturel. C'est évident qu'au vu des transitions épidémiologiques et démographiques, c'est tous ensemble, médecins du public et médecins libéraux, médecins et autres professionnels de santé, qu'on relèvera la tâche, et pas par des mesures coercitives comme on peut le voir récemment.
Il faudrait peut-être demander à nos politiques de passer une journée dans un cabinet médical, qu'ils comprendraient mieux.
Alors, certains le font. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, ne cesse de le faire, et en nous disant, habituellement, le ministre, on l'emmène dans un cabinet, une maison de santé, à l'américaine, pour reprendre ses... sachez que très prochainement, il viendra en Mayenne, chez mon ami Luc Duquesnel, voir des médecins dans des cabinets de groupe, de des cabinets isolés, et finalement voir quelle est la vie et les accompagner toute une journée. Je ne suis pas là pour faire la promotion du ministre, vous imaginez bien, je suis président d'un syndicat. Mais je pense qu'effectivement, il faut que nos politiques aillent voir ce qui se passe chez nous.
Bon, et le combat continue pour des résultats concrets quand même?
Le combat continue pour les Français. Moi, mon message, c'est le combat continue pour les Français parce que c'est notre mission, c'est notre vocation.
Merci beaucoup, Franck De Wulder.
Merci, Fabien Gazan.
Vous revenez quand vous voulez. On va terminer par une séance de sport santé avec Mathilde Minet, qui vient tout juste de sortir le guide Mini Duca que tout sportif ou futur sportif devrait avoir.
BFM Business, Check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Mathilde Minet, bonjour.
Bonjour Fabien.
Merci, bienvenue dans le Check-up Santé. Vous venez de loin, de Lozère.
C'est ça, exactement.
Alors vous êtes justement médecin généraliste à Mende,
exactement.
En Lozère, M-E-N-D-E. Et vous êtes aussi évidemment médecin du sport. Vous êtes même maître de conférence associé à la faculté de médecine de Montpellier. Et vous avez sorti, il y a quelques heures, un guide pratique. D'ailleurs, c'est le premier guide pratique des gestes qui préviennent, qui soulagent. Dans le sport, évidemment.
Exactement, dans l'activité physique.
Parce que vous trouvez que les Français ne pratiquent pas assez le sport, ou même l'activité physique?
Oui, alors il y a des chiffres qui montrent que, selon les recommandations, on devrait pratiquer 30 minutes d'activité physique, pas forcément de sport, mais au moins d'activité physique par jour.
Bouger, quoi.
Bouger. Mm-hmm. La lutte contre la sédentarité, on dit qu'il ne faut pas rester plus de 7 heures assis ou allongé par jour. Et cette lutte contre la sédentarité, on voit qu'il y a à peu près un Français sur deux qui ne fait pas assez d'activité physique.
Alors, ce guide, il est petit, mais franchement, c'est minimire, mais il fait le maximum. Il est vraiment, sur le plan qualitatif, il est absolument génial. Donc, bourré de conseils, surtout des conseils de prévention.
Exactement, c'est important aussi ces messages de prévention dans la reprise ou la pratique des activités physiques.
Mmh. Et on a qui ont l'air d'être simples comme ça, mais que vraiment qu'on oublie de pratiquer, que la plupart
exactement.
Des gens oublient de
pratiquer. Ça paraît ouais. évident, et pourtant, quand on pratique, ben, on n'y pense pas toujours. Donc c'est ouais. important de les rappeler, ces messages de prévention.
Donc des messages sur quoi ? Sur quoi ? Sur l'équipement ?
Complètement, sur la préparation, sur les conditions, sur l'équipement, la prévention de certains incidents qui peuvent arriver et qu'on peut prévenir facilement. Voilà, c'est cette idée-là, surtout dans cette année 2024, qui est une année sport qui s'annonce. Mm-hmm. On avait décidé de passer
oui.
ce message.
Bien sûr. Je crois que vous avez été aussi... vous avez eu un espèce de partenariat avec le ministère des Sports, non ?
Exactement. On a un partenariat. On est labellisé par le ministère des Sports à l'approche de cette année sportive 2024.
On va peut-être distribuer votre guide pendant les Jeux Olympiques.
Espérons, qui sait.
On vous espère. Donc vous l'avez fait, il ne faut pas oublier quand même, vous l'avez fait avec Grégory Nino, avec Martine Duclos et avec mon pote François Carré.
Exactement.
Qui est cardiologue et médecin du sport vraiment reconnu internationalement.
Trois experts, voilà. Une super équipe pour faire ce mini-duca.
Donc il y a une partie donc prévention, donc expliquer pourquoi il faut faire du sport, dans quelles conditions, l'équipement, la durée, les gestes aussi, les échauffements, ça c'est vraiment très précis. Et quand on a des petits soucis, donc vous expliquez de façon un peu assez pédagogue, vous dites si est-ce qu'il y a des signes qui montre que c'est pas grave, que c'est plutôt grave, que c'est très grave. C'est ça ?
Exactement, c'est un outil pour le grand public, hein, c'est un guide mm-hmm. pratique où on a voulu répertorier des signes qui peuvent arriver lors de l'activité physique et lors de la vie quotidienne. Et que ce
surtout un paquet de situations, quoi.
Exactement, on a essayé de réfléchir à tout ce qui pouvait arriver. Hein. Ouais. C'est pas négatif, mais c'était l'intérêt aussi d'être assez exhaustif pour que les gens se retrouvent dans ce guide pratique.
Il n'y a pas assez, justement, vous trouvez que le public n'est pas assez informé là-dessus? C'est vrai qu'on dit toujours bouger, faire du sport, mais on ne dit pas comment et on ne dit pas de quelle façon.
Exactement. Le public n'est peut-être pas assez informé et parfois reprend une activité physique parce qu'on dit le sport c'est bon pour la santé et donc il commence à se blesser dès la première reprise d'activité physique. Donc c'est ça. Et puis ensuite, les sources d'informations sont multiples, nombreuses, notamment sur Internet et pas forcément toujours adaptées. Donc c'est important d'avoir un référentiel.
Là, c'est concentré là.
Exactement.
Dans le mini-duca.
Exactement, le mini-duca.
Donc c'est vrai que vous aussi, vous conseillez, ce qui est important aussi dans un patin sportif, c'est la reprise du sport. Là, vous êtes très attentive là-dessus, non ?
Exactement, parce que c'est bien de dire on reprend le sport, mais c'est des conditions, si les patients n'ont pas fait ou les personnes n'ont pas fait de sport depuis 20 ans, ils disent moi j'étais un super joueur de tennis, je vais reprendre, et le premier jour ils reviennent et, ouf, finalement docteur j'ai mal au coude, c'est difficile en fait la reprise, autant le faire dans des bonnes conditions.
Bien sûr. Avec et donc vous précisez conditions. Dans ce bouquin que ce qui est important c'est la progressivité, c'est la régularité, il faut pratiquer combien de fois par semaine?
Alors maintenant les recommandations c'est tous les jours d'activité physique, hein, pas forcément sport mais activité physique, 30 minutes par jour tous les jours.
Parce que le sport du dimanche ça sert pas à grand chose.
Ça sert aussi, hein, toute activité.
Ça sert pour le moral, pour le mental.
Complètement, et c'est hyper important aussi.
C'est quand même mieux de pratiquer plusieurs fois par semaine.
Complètement, tous
les jours. Deux fois, c'est le minimum, mais il vaut mieux bouger.
Complètement, bouger tous les jours, c'est ce qui est important.
Oui, et vous donnez des conseils de pratique et activité physique chez même les travailleurs.
Complètement, oui. Tout le monde a une indication à pratiquer une activité physique et c'est important de le faire. Dans ce cas-là, voilà, on peut faire de l'activité physique n'importe où, sur son lieu de travail, le dimanche, en famille, dans des clubs sportifs.
Ouais. Et expliquer qu'il n'y a quasiment jamais de contre-indication à la pratique sportive.
Chacun a son niveau, chacun son activité physique, mais le tout, c'est de bouger, quoi.
Ouais, et d'adapter pas seulement le... Parce que des gens en mode santé, hein, évidemment, mais en fonction des pathologies aussi.
Exactement.
Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de pathologie qui contre-indique tous les sports.
En tout cas, dans toutes les pathologies chroniques, l'activité physique est indiquée. Les seules contre-indications, mais c'est quand une pathologie chronique est en phase aiguë non équilibrée, où il faut bien sûr voir avec son médecin pour l'équilibrer peut-être avant d'attaquer l'activité physique, mais sinon, il n'y a pas de contre-indication complète et
absolue au sport. C'est important de se contrôler médicalement avant, pendant ?
Complètement, avant la reprise d'activité, selon l'état de santé, c'est important aussi de...
Mm-hmm. Et vous terminez par des gestes qui sauvent ?
Complètement, dans le mini-duca, du coup, il y a les signes peu graves, moyennement graves, ou qui amènent la consultation chez un médecin, et les signes très graves qui amènent à appeler les services d'urgence.
Voilà. Puis résumer un petit peu les gestes qui sauvent, quoi, l'arrêt cardio-respiratoire, la fausse route, etc.
Complètement.
D'après vous, pour finir, pourquoi les Français pratiquent moins le sport que peut-être leurs collègues européens?
Alors il y a tout un tas de freins qui ont été répertoriés. Les conditions changent et de plus en plus dans les écoles on pratique aussi l'activité physique.
Ouais.
Et c'est important aussi de
et peut-être
dire.
Aussi que les Jeux Olympiques vont
complètement l'année 2024 va peut-être changer nos modes de vie.
Parfait. Et... Donc merci beaucoup. Donc je conseille vraiment d'acheter ce mini guide, il est absolument génial. Il est facile à lire et vous allez apprendre plein de choses. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.